Est-ce que je médite? C'est une question qu'il m'arrive de me poser quand je vois l'avalanche de livres et la multitude de discours qui nous somment de pratiquer la méditation, nous enseignent ces techniques et nous déroulent la liste de ses bienfaits. Est-ce que je médite? Non, pas dans ces conditions. Je ne me somme de rien et, quand je n'ai pas envie de méditer, je fais autre chose et puis c'est tout. Ce n'est ni un bien ni un mal, ce n'est pas un drame. Je n'applique pas une technique. Je ne m'appuie pas sur un mode d'emploi. Je médite pour me libérer de toutes les injonctions. Et je n'ai pas pour objectif de devenir sage, ni calme, ni patient. Je n'ai aucun objectif, aucun but, pas même celui d'entamer ou de finir la journée dans un état d'esprit particulier. Je pratique la méditation depuis plus de 25 ans, je l'enseigne depuis près de 15 ans, mais je n'ai ni technique à transmettre, ni promesse à faire miroiter. D'ailleurs, quand j'ai commencé à enseigner, beaucoup m'ont prédit l'échec. Qu'allais-je pouvoir communiquer quand j'expliquais d'emblée que la méditation n'est pas productive, qu'elle ne rend pas plus efficace, qu'elle n'assagit pas et que, fondamentalement au sens ordinaire, elle ne sert à rien ? Et que c'est justement parce qu'elle nous délivre de l'asservissement, de cette dictature de l'utilité et de la rentabilité propre à notre temps, qu'elle est une chance. Au fil des ans, autour de moi, l'obsession de la performance est devenue un poison. La rentabilité et l'utilité ont été érigées en maîtres mots de notre monde, y compris en matière de méditation. J'ai vu les manuels et les exercices proliférer, et même des posologies être quasi prescrites avec des résultats garantis au bout de 10 ou 20 séances. Il faudrait, nous dit-on, méditer dans les entreprises pour augmenter la rentabilité, dans les écoles pour que les élèves soient plus concentrés et plus efficaces, à la maison pour être moins stressés. J'ai vu des apprentis méditants désarçonnés puis dégoûtés. Leur apprentissage avait échoué, ils n'avaient pas été transformés et ne s'étaient même pas déstressés. Sans doute, me disait-il, qu'ils ne s'étaient pas assez concentrés, n'avaient pas réussi à se détacher de leurs pensées. Ils s'étaient laissés distraire, s'étaient mal assis, ou peut-être que la technique prodiguée, finalement très difficile, n'était juste pas faite pour eux. En réalité, ils se sont préparés comme pour un oral d'examen. Plus on est crispé, plus on est focalisé sur l'obligation de réussir, plus on court de risques de se présenter gorge nouée et mains moites avec peur et sans plaisir, et donc d'échouer. Cette méditation, ou ce que l'on appelle ainsi, n'est pas mienne. La méditation telle que je l'entends n'est pas une technique, elle n'est pas un exercice, elle n'a rien de mystérieux, elle est un art de vivre, l'art de se foutre la paix. Je ne prescris rien, je ne fournis pas d'astuces, je ne garantis rien et je ne donne pas de bons points. Je ne suggère pas de regarder passer ses pensées, sans s'y attarder comme des nuages qui finissent par se dissiper. Cette technique ne part pas d'une mauvaise idée, mais, quand on la pratique, elle devient très vite fastidieuse et on finit par s'emmerder. Et quand on s'emmerde, on cesse d'être vivant. Or, je n'ai pas envie de me torturer sous le prétexte qu'il me faut méditer. Je préfère parier sur l'intelligence et l'humanité de chacun. Je sais que mes propos vont heurter, mais j'ai choisi de dire la vérité parce que c'est ma conviction profonde. Au fond, on ne médite que si on arrête de chercher à méditer. Si on se débarrasse de l'impératif de devoir réussir quelque chose, d'accomplir quelque chose, de répondre à un objectif, donc d'être dans l'angoisse de l'échec. Dans ma vie, oui, je suis parfois crispé. M'ordonner alors de me détendre est le meilleur moyen de me crisper encore plus, de me torturer. Je n'attends même pas qu'on m'en donne l'ordre. Je sais très bien me torturer tout seul. Comme tout le monde, j'ai tendance à vouloir bien faire. Tellement bien faire que je me place dans un état de tension extrême. Je me pose des défis et je suis pris d'une peur panique de ne pas parvenir à les relever. Pourtant, je sais d'expérience que lorsque je me contente de constater que je suis crispé et que je m'autorise sincèrement à le rester, quand je me fous la paix avec ma crispation, je finis curieusement, le plus souvent, par me détendre très vite. C'est ce geste-là, à la fois si simple et si compliqué, le fait d'oser se laisser tranquille, l'audace de se foutre la paix, que j'appelle méditation. Je me souviens de mes grands-parents qui passaient de longs moments, en silence, à regarder crépiter le feu dans la cheminée. Communistes, ils avaient pris leur distance avec la religion et la spiritualité. Ils étaient loin d'être des mystiques et n'avaient jamais entendu parler de méditation, mais leur soirée devant le feu sont ce qui se rapproche le plus de la méditation telle que je l'entends. C'était pour eux une forme d'hygiène de l'esprit, un acte naturel, banal, mais indispensable. Aussi naturel et banal que de marcher, de bouger, de se fatiguer, de pratiquer ce que nous appelons aujourd'hui le sport et que nous accomplissons, nous, selon des protocoles savants avec des machines, des instructions, des appareils mesurant nos performances et les comparant à celles du voisin. Nos arrière-grands-parents, eux, n'avaient pas besoin de faire leur jogging pour rester en forme. J'avais 14 ans quand j'ai entendu parler pour la première fois de cette pratique qui, à l'époque, était confidentielle. Elle m'avait fortement intrigué, mais j'ai eu peur, en m'y engageant, de devenir une sorte de légume. Ne rien faire pendant un moment, n'est-ce pas une démission totale ? Par ailleurs, m'étais-je dit, si cette méthode si simple fonctionnait vraiment, tout le monde l'aurait adoptée. Je me suis replongé dans les livres que je dévorais et dans les poèmes que j'écrivais, mais au fond de moi, je restais intrigué. À 21 ans, j'ai sauté le pas. J'avais entamé des études de philosophie et ma déception était à la hauteur de l'enthousiasme qui m'avait poussé dans cette voie. Pour tout dire, je n'y arrivais pas. Je m'y étais engagé en cachette de mes parents, qui croyaient, eux, que j'étudiais le droit. Je ne me sentais pas très à l'aise avec mon mensonge, mais j'espérais réussir enfin quelque chose qui me plaise. Or, mes résultats étaient médiocres. Je ne parvenais pas à lire les livres qu'il fallait, et quand, au prix d'extrêmes efforts, j'en avais lu un, j'oubliais aussitôt les concepts que j'aurais dû maîtriser. J'étais accablé quand j'ai sonné à la porte d'un groupe d'Américains dont on m'avait donné l'adresse. Un homme fort aimable m'a accueilli et m'a introduit, en quelques mots, à la méditation. Il me suffisait, m'a-t-il dit, de bien m'asseoir sur mon coussin et d'être juste présent, attentif à ce qui se passe. De mettre de côté mon savoir et mes compétences, et de ne pas essayer de comprendre, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Je n'en revenais pas. Cette fois, là, vraiment, je n'avais rien de compliqué à faire. C'est ainsi que j'ai médité pour la première fois, sans savoir à ce moment que j'avais la chance d'être initié par Francisco Varela, l'homme affable qui m'avait ouvert la porte, était en fait l'un des plus grands neurobiologistes contemporains.